Journal présenté par Mathieu Laurent. Bonjour Mathieu.
Bonjour Hervé et bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, l'élection en milieu de matinée à la présidence de l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne d'Armin Laschet, qui succède ainsi à Angela Merkel. Les retards de livraison des vaccins Pfizer en pleine montée en puissance des variants du coronavirus et l'invitation à trouver d'autres fournisseurs sans tarder du professeur Djilali Annan, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. L'annonce par Mahmoud Abbas d'élection en Palestine, décryptage signé Alice Froussard. 13e exécution, 6 mois pour l'administration de Donald Trump. Le démocrate Joe Biden a fait campagne sur son opposition à la peine de mort et a promis de travailler avec le Congrès pour tenter de l'abolir au niveau fédéral. Commentaire de la politologue franco-américaine Nicole Bacharan. Enfin, à l'affiche de la Bulle Écho de ce samedi, risque de zombification d'une économie abîmée par la pandémie. Quelle ligne et quel espace politique pour l'Union chrétienne démocrate était en lice pour le poste de président de la CDU, Norbert Röttgen, Armin Laschet et Friedrich Merz, le vainqueur et futur chef de file des conservateurs aux élections législatives du 26 septembre et donc Armin Laschet. Notons au passage que les trois prétendants à ce poste viennent de la région de Rhénanie du Nord-Westphalie. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes en ligne de Berlin, Ludovic. Quel est le parcours de l'homme qui succède à Angela Merkel et qu'est-ce qui le caractérise ?
C'est d'abord la victoire d'un candidat d'équilibre, je dirais un candidat du consensus. Je vous laisse écouter le moment du résultat.
Das Ergebnis für Armin Laschet, Friedrich Merz.
Une musique à suspense digne d'une émission de télé-réalité.
Herzlichen Glückwunsch, Armin Laschet, und vielen Dank.
Et un résultat serré, 521 voix pour Laschet contre 466 pour Friedrich Merz, ce dernier qui était déjà candidat il y a 2 ans et qui avait échoué de la même façon au pied de la marche face à Annegret Kramp-Karrenbauer. Il a donc été préféré une personnalité moins clivante, plus ronde. Armin Laschet, bientôt 60 ans dans un mois, est un libéral aussi, hein, mais beaucoup plus jovial, je dirais, beaucoup plus bonhomme, davantage capable d'intégrer les différents courants de la CDU. Il est très connu dans le pays, très installé puisqu'il dirige la grande région, vous l'avez mentionné, de Rhénanie du Nord-Westphalie. C'est la plus peuplée d'Allemagne. Dans son discours de candidature un peu plus tôt dans la matinée, il a promis de diriger le parti et pourquoi pas le pays de la même façon qu'Angela Merkel, sans brusquer, en cherchant à réconcilier un pays marqué depuis 2 ans par la montée de l'extrémisme et de la radicalité.
On ne laissera pas l'extrémisme de droite casser notre pays. Certains voudraient polariser, je leur dis non. Nous devons toujours parler clairement. On doit pouvoir intégrer tout le monde et faire société ensemble. C'est un travail difficile, mais à la fin, la population attend de nous que nous cherchions des compromis et trouvions des solutions.
Von uns erwarten.
Voilà Mathieu, discours de réconciliation, donc de rassemblement, hein, en vue du grand rendez-vous politique de l'année en Allemagne, les élections législatives dans 8 mois.
Merci à vous Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Le mandat d'Angela Merkel, vous venez de le dire, se refermera dans 8 mois. Un quatrième mandat marqué par une gestion de la pandémie qui, à défaut de faire l'unanimité, est majoritairement qualifiée d'efficace, y compris dans cette phase actuelle de questionnement sur l'organisation des campagnes de vaccination. À cet égard, quel impact prêter aux variants du Covid sur la vitesse de propagation du virus, les unes après les autres, les organisations internationales en charge des questions de santé s'inquiètent des risques d'une sensible accélération, d'où les mises en garde émises ici et là aux gouvernants, fermement invités à vacciner, tenter plus et au plus vite. Qui plus est, depuis l'annonce par le laboratoire américain Pfizer de retard de livraison de son vaccin aux pays européens, dont la France. Il est impensable de devoir ralentir à nouveau le calendrier, martèle le professeur Djilali Annan, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches.
Les laboratoires ont une obligation de résultat et de respecter et de sécuriser leurs engagements en termes de livraison. On est dans une course contre la montre vis-à-vis du virus et de l'apparition, de l'installation du variant britannique. Et il n'est pas possible de pouvoir ralentir, il faudrait continuer d'accélérer. Il y a des pistes pour ça, ça ne peut pas être une fatalité. La première, pourquoi ne pas faire ce que fait l'Allemagne, c'est-à-dire de négocier en dehors des négociations européennes des doses supplémentaires auprès de Moderna. Deuxième piste, pour quelle raison on n'accélérerait pas l'autorisation de mise sur le marché en Europe du vaccin d'AstraZeneca ? On pourrait ainsi le mettre en place et l'utiliser beaucoup plus rapidement et supplanter les carences du laboratoire Pfizer. On peut pas simplement se dire c'est une fatalité et tant pis, du coup on va vacciner moins vite, alors qu'il faudrait continuer de vacciner plus vite.
Plus que quelques heures avant l'entrée en vigueur à 18h précise d'un couvre-feu appliqué à tout le territoire métropolitain et ce pour au moins 15 jours. Mais revenons à ce mot, la fatalité. Ce n'est pas une fatalité, mais une géographie, une démographie qui force l'humilité. L'Inde commence en effet ce samedi l'une des plus grandes campagnes de vaccination de l'histoire moderne. 1,3 milliard d'habitants devront être vaccinés, ce qui devrait durer des mois, voire des années, moyennant de vertigineux défis logistiques. Les précisions de notre correspondant en Inde, Sébastien Farcy.
300 millions de personnes, c'est le nombre d'Indiens qui seront vaccinés rien que pour la première phase de 6 mois. Ce sont les personnels de santé, les policiers ou autres personnes âgées de plus de 50 ans. Deux vaccins seront inoculés gratuitement, celui d'Oxford AstraZeneca et un autre du géant indien Bharat Biotech. 16 millions de doses, toutes fabriquées en Inde, ont déjà été livrées pour cela. À terme, l'un des défis sera de maintenir la chaîne du froid à tous les niveaux, comme l'explique Ritu Priya, professeur de santé publique à l'université Jawaharlal Nehru de New Delhi.
Pour la phase initiale, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de gros problèmes logistiques. Par contre, quand la vaccination sera déployée pour la population entière et dans les campagnes des régions moins développées, il pourrait y avoir des problèmes. Mais par chance, ces vaccins doivent être gardés entre 2 et 8 degrés, les mêmes températures que pour ceux du programme habituel de vaccination universelle. Donc l'Inde a déjà un énorme réseau de chaînes du froid pour.
Le gouvernement s'appuiera sur une application mobile appelée Cowin pour enregistrer et suivre les rappels de vaccination. Les experts estiment que cela pourrait prendre jusqu'à 2 ans pour vacciner toute la population indienne.
Sébastien Farcy à New Delhi. Les autorités fédérales américaines viennent de procéder à leur 13e et dernière exécution en 6 mois. Dustin Higgs, un homme noir de 48 ans, reçut une injection létale dans le pénitencier fédéral de Terre Haute dans l'Indiana. 13 exécutions fédérales en 6 mois, une série inédite dans l'histoire des États-Unis. En effet, les prédécesseurs de Donald Trump ont eu coutume en fin de mandat de se concentrer sur les pardons et la commutation de peines. Ces exécutions en série résultent avant tout d'une mainmise de Donald Trump sur la Cour suprême, le tout à des fins électoralistes. C'est en tout cas l'avis de la politologue franco-américaine Nicole Bacharan au micro de Thomas Larabi.
Il y a vraiment une rage d'aller au bout de ces exécutions avant la fin de son mandat. De la part de Donald Trump, c'est une volonté d'affirmer son adhésion à la peine de mort, de rétablir une peine de mort au niveau fédéral qui, en fait, n'était plus pratiquée depuis 17 ans et d'affirmer auprès des siens, auprès de son électorat, qu'il tient ses promesses et que si on veut un homme fort, c'est lui qu'il faudra réélire. 13 exécutions depuis l'été, on n'a jamais vu une chose pareille. Et évidemment, rejet des recours devant la Cour suprême avec la majorité que Donald Trump a construite, c'est-à-dire 6 contre 3. Les 6 conservateurs contre les 3, disons, plus progressistes.
Que va faire Joe Biden vis-à-vis de la peine de mort au niveau fédéral ?
Joe Biden est le premier candidat d'un des deux grands partis qui met la fin de la peine de mort à son programme. Ça montre une évolution considérable, à la fois de la part de certains leaders politiques et de la part de l'opinion dans son ensemble. Au niveau fédéral, il a évidemment immédiatement ce droit de grâce qui fait qu'il peut de facto mettre fin à toute exécution. Et on peut être assez certain qu'il n'y aura pas d'exécution fédérale pendant le mandat de Joe Biden. Au niveau des États, chaque État est libre de voter une législation abolissant la peine de mort. Il y a toujours la possibilité de recours devant la Cour suprême pour une abolition générale. Mais là, à la Cour suprême de Donald Trump, je n'imagine pas une seconde qu'il mette en place une abolition générale de la peine de mort.
La politologue Nicole Bacharan avec Thomas Larabi. La Palestine a enfin un calendrier électoral de plein exercice, si je puis dire. Élections législatives et présidentielles en mai-juillet prochain. Plusieurs élections municipales ont été organisées depuis 2005, mais seulement en Cisjordanie et sans la participation de certaines factions comme le Hamas. Les précisions à Jérusalem d'Alice Froussard.
15 ans que cela n'était pas arrivé, des années que les Palestiniens les attendaient sans réel espoir. Cette fois, le décret est là. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, appelle à une campagne démocratique. Le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, se félicite de cette annonce et parle du droit du peuple palestinien à choisir ses représentants. Mais si certains analystes se disent optimistes, précisent que fixer la date des élections est une étape importante vers l'unité palestinienne en formant un gouvernement d'unité nationale. D'autres sont plus réservés, insistent sur le fait que ce décret ne signifie pas complètement la fin des querelles entre les factions palestiniennes, le Fatah et le Hamas, et qu'il va falloir mettre en place des mécanismes pour garantir que la division précédente n'ait pas lieu une fois les élections passées. Et puis il y a encore beaucoup d'incertitudes. La publication de ce décret par le président ne signifie pas complètement que les élections auront lieu. Il peut y avoir des élections législatives, mais pas de présidentielles. Il faudra aussi régler la question de Jérusalem, savoir si Israël, qui a annexé et occupe cette partie de la ville, autorisera les Palestiniens de Jérusalem-Est à voter. Quant aux candidats pour l'élection présidentielle, c'est aussi un mystère. Mahmoud Abbas, 84 ans, n'a pas encore précisé s'il se représenterait ou non. Et puis, si élection il y a, il faudra s'assurer que tout le monde acceptera les résultats.
La bulle économique, Marie Viennot.
Les incertitudes sanitaires favoriseraient-elles une zombification de l'économie, à tout le moins une augmentation du nombre des entreprises zombies? C'est la question de la bulle éco de ce samedi.
2021 sera-t-elle l'année des zombies? Peu engageant pour un début d'année, mais c'est la question qui monte et que posent des officines sérieuses comme le Trésor ou France Stratégie. Une entreprise zombie, c'est une entreprise dont les résultats ne couvrent pas le remboursement des intérêts de sa dette alors qu'elle n'est pas en phase de lancement. Pour poursuivre son activité, elle ne peut qu'emprunter à nouveau et sa dette grossit inexorablement. Combien sont-elles? On ne sait pas bien, admet la Banque des règlements internationaux, la chef des banques centrales, qui leur a consacré un rapport en septembre. Une chose est sûre, la proportion des entreprises zombies augmente depuis 30 ans. Ça ne date pas du Covid-19. La faute, en partie, au taux d'intérêt très bas qui pousse les agents économiques à s'endetter puisque cela ne coûte pas cher. De 4% dans les années 80, la part des zombies est passée à 30% en Australie et au Canada en 2017, 15% en moyenne, comme en France. Mais chez nous, cette part des zombies a doublé depuis 2008 alors qu'elle diminuait chez nos voisins. Mais ces chiffres sont sous-estimés car ils ne prennent pas en compte, admet la Banque des règlements internationaux, la majorité des PME qui sont plus sujettes à la zombification. Oui, c'est le mot utilisé. Que dire alors après 2020, année où les entreprises ont ajouté de la dette à leur dette pour ne pas mourir elles aussi du Covid? Plus de dettes, plus de zombies, c'est un risque, mais ce n'est pas, heureusement pour les vivants, automatique. La dette, et c'est pareil pour la dette publique, n'est pas toujours un problème en soi. Elle le devient s'il n'y a pas en face des rentrées d'argent pour la maintenir à un niveau soutenable. Évaluer cela, ne pas prêter aux entreprises non viables, achever les zombies en somme, c'est le travail des banques. Le problème du moment, c'est comme le dit ce directeur financier.
Alors, je vous fais une confidence, je ne sais plus comment se décident les banques aujourd'hui. Tous nos cadres habituels de ratios ont volé en éclats.
En temps normal et à gros traits, une entreprise est viable quand ses résultats sont suffisants pour financer son activité à long terme. Mais comment on fait quand, exceptionnellement, son chiffre d'affaires est de zéro, qu'elle a financé ses charges avec des prêts et ne peut faire aucune projection car l'avenir est incertain comme jamais? Quand une grande partie de l'économie est plongée en coma artificiel, les zombies passent inaperçus. Non détectés, non liquidés, leur proportion peut en effet grossir. Les aides d'État, utiles, ont elles aussi brouillé les cartes. Or, les entreprises zombies peuvent entraîner dans leur marasme des entreprises saines avec qui elles sont en affaires. Voilà pourquoi on les appelle ainsi. À vivoter comme elles le font, raisonnent les économistes, sans investir, sans innover, sans être des as de la productivité, les zombies ralentissent le potentiel de croissance de toute une économie. En un mot, ce sont des boulets. Pas besoin de ça en ce moment, mais faire la chasse aux zombies, est-ce une solution pour favoriser la relance? Surtout pas, s'énerve un cadre de la Confédération des petites et moyennes entreprises, tant qu'une entreprise a des clients, qu'elle a un carnet de commandes, des salariés, elle est vivante. Et de plaider pour qu'on traite plutôt le problème à la racine, puisque c'est le surendettement hérité de la crise, allégeons, dit ce patron, allégeons la dette des entreprises. Le Conseil national de la productivité fait lui aussi cette suggestion. Expert comptable et administrateur judiciaire ne voit pas comment on pourrait faire sans, mais privé, public, même tabou pour le moment pour l'exécutif. Étaler la dette, oui, l'alléger, il n'est pas question de l'envisager. Alors qui de la dette ou des zombies sera le plus gros boulet? On ne sait, car plane aussi la menace que certains secteurs ne repartent pas comme avant une fois le gros de la crise sanitaire passé. On pense au transport, à l'immobilier commercial, au tourisme, au spectacle vivant. Zombies d'hier, d'aujourd'hui ou zombies de demain, la photo n'a jamais été aussi floue qu'en ce début d'année.
Merci à vous, Marie Viennot. Quelques mots seulement de la météo pour refermer ce journal avec à 7h 32 départements placés en vigilance orange, neige, verglas. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet, la technique Audrey Guélil.